entrevues. Radio Shalom Bourgogne, 97.1 FM.
Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec Madame Martin, adjointe à la culture de Madame le maire de Dijon. Bonjour.
Bonjour à vous.
Nous avons évidemment prévu un certain nombre de questions sur un sujet qui est vaste, parce que qu'est-ce qu'on met dans la culture ? En tout cas, on va commencer par la question de vos engagements, vos orientations pour le développement de la culture à Dijon, dans tous les sens du terme.
Bien sûr. Alors, évidemment, quand on parle de culture, nous avons envie qu'elle se partage. Et je dois dire que c'est la première des visées, la première des valeurs que nous pouvons poser dans notre conversation. C'est le partage, la volonté que la culture soit accessible à toutes et tous. Et cette volonté aussi, évidemment, d'inclusion et de surtout valoriser tout ce qui existe, que ce soit la création, que ce soit le patrimoine, bien évidemment, de notre ville. Nous venons d'en parler en off de cette émission et de dire la chance que nous avions à Dijon d'avoir un patrimoine extraordinaire. Encore faut-il qu'il soit donné à voir et à comprendre. Et la culture à Dijon, c'est essentiel. Les artistes sont au cœur de nos projets, les structures sont au cœur de nos projets, tout comme les établissements. Et pour nous, il doit être question, encore une fois, de démocratie, de démocratisation, de partage et de pratique culturelle.
Alors, quand vous parlez de valorisation de la création, qu'est-ce que ça veut dire ?
Valorisation de la création, ça veut dire permettre aux artistes, aux compagnies, aux musiciens, aux structures, quelles qu'elles soient, dans tous les arts, que ce soit danse, théâtre, musique, tous les styles de musique, bien évidemment, art visuel, de pouvoir s'exprimer. Pour pouvoir s'exprimer, il faut certes les autoriser à le faire, bien que la liberté d'expression, la liberté de création soit encadrée et dite dans la loi LCAP de 2016. Néanmoins, il faut donner des moyens. Donner des moyens, ça passe par, bien évidemment, peut-être des financements, mais aussi un accompagnement, mais aussi des locaux mis à disposition. Et c'est tout cela qui va pouvoir faire que les structures vont pouvoir s'exprimer, accueillir du public, créer et partager comme nous le souhaitons.
Alors, ce qui veut dire qu'à Dijon, on va dire ce qui est alternatif, hein, ce qui est sur la frontière entre ce qui est reconnu, connu, et ce qui n'est pas, qui amène de nouveaux styles, vos modes d'expression, comment ça se passe entre et votre monde ?
Ah, mais mon monde, il est partout, monsieur, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne suis pas à ne converser ou à ne considérer que ce qui serait les labels donnés par le ministère de la Culture, Centre dramatique national, Centre de développement chorégraphique national, Centre national de création musicale, bref, tous ces labels que nous avons plaisir à porter ici, bien évidemment. Théâtre lyrique d'intérêt national, ça c'est l'opéra, ou scène conventionnée d'intérêt national à renforcer jeunesse, ça c'est la minoterie, ou salle de musique actuelle, ça c'est la vapeur, tout ça c'est formidable. Et ce sont des acteurs avec lesquels je converse, bien évidemment. Et nous conversons Ville de Dijon. Mais l'intérêt, ce sont aussi les marges, l'alternative, ce qui peut être considéré à certains moments comme, j'allais dire underground, pardonnez-moi l'anglicisme,
oui,
mais j'ai toujours considéré que les marges faisaient avancer la norme et que ce sont, et ce n'est pas de moi cette citation, ce sont les marges qui tiennent les pages. Et vraiment, c'est pour moi, à cet endroit-là aussi, les choses doivent être regardées et la création encouragée. C'est à ces endroits-là que nous avons les surprises. Par exemple, vous avez d'un côté un centre d'art contemporain qui s'appelle le Consortium, que tout le monde connaît. De l'autre côté, pas suffisamment, mais plus sans doute que les deux autres lieux ou trois autres lieux que je vais vous citer, qui s'appellent par exemple Vortex, White Cubi ou La Volière. Là, on est dans, ce qui fait le ferment de la création et de la créativité actuelle. Et c'est à ces endroits-là que les choses doivent être regardées. Et ce qui est important dans une politique culturelle, à mon sens, c'est d'être à tous ces endroits-là. D'être en soutien de la vapeur, parce que c'est une salle de musique actuelle qui joue son rôle, mais d'être en soutien d'équipes artistiques, comme Zutik, par exemple, et le Maquis sur les berges du canal. Et la richesse d'une ville, la richesse culturelle d'un territoire et la richesse culturelle ou créative de façon générale, elle passe par tous ces aspects. C'est des pleurants du tombeau des ducs au Maquis sur le bord du canal.
Alors en matière de rap, puisqu'il y a un festival, il y a un rassemblement, je crois que ça s'appelle Golden Coast à Dijon.
Je crois que vous avez bien saisi le nom.
Oui. Est-ce que cette énorme machine qui amène du monde, qui visiblement a un grand succès, est-ce qu'elle va gêner l'expression, par exemple, d'un rap local ou d'un autre rap ?
Ce qui m'intéresse, c'est que tout existe. Pour parler à vos auditeurs et auditrices, nous sommes dans mon bureau. Derrière moi, j'ai une affiche qui est une affiche d'une exposition du consortium. Et sur cette affiche, il y a une citation de Xavier Dourou, qui était l'un des fondateurs du consortium, qui dit « Il faut que tout existe ». Si j'ai placé cette affiche dans mon bureau, c'est à dessein. Et donc, le Golden Coast, c'est une chose, c'est, comme vous le dites, un gros festival porté par des équipes très professionnelles, etc., etc., une grosse machine culturelle. Elle est importante, ça place Dijon sur une carte des grands festivals, au même titre que, je ne sais pas, les Eurocaennes, Rock en Seine, etc., etc. Mais le reste doit exister, absolument. Et quand vous parlez de rappeurs, par exemple, locaux, nous venons de vivre le concert de rentrée sur la scène de la place du théâtre du concert de rentrée. Il y avait un rappeur qui s'appelle LBD, qui est porté par la SMAC, la Vapeur. Et ce rappeur était face à un public dans des conditions très professionnelles. Et ça, c'était formidable. Mais ce rappeur, on va le retrouver aussi... sur le Golden Coast ou dans les soirées Antidote, etc., etc. Bref, tout ça doit se mailler et marcher ensemble et exister ensemble.
Alors, il y a un domaine très intéressant qui est celui du musée du Beaux-Arts, parce que vous avez un musée à Dijon qui est extraordinaire.
Il faut le dire. Nous avons 5 musées, dont le musée des Beaux-Arts.
Alors, dans ce domaine-là, quelles sont les initiatives et actions qu'on peut retenir? Parce que ce musée étant exceptionnel, on peut le dire objectivement. Mais oui. Qu'est-ce qu'il en est donc de l'évolution
de ce musée,
de comment la population rencontre ce musée?
Bien sûr. Alors, pour le moment, nous sommes également dans une actualité extrêmement heureuse pour le Musée des Beaux-Arts, puisque nous venons d'avoir un don absolument formidable d'un Florent gothique du 19e siècle, début du 19e siècle, qui nous a été donné gracieusement par un collectionneur londonien qui en avait fait l'acquisition. Et donc, nous venons compléter la série des pleurants qui venaient en fait remplacer les manques des pleurants des tombeaux des ducs. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un moment très heureux du musée des Beaux-Arts, puisque nous avons accueilli ce pleurant. Mais les musées de la ville de Dijon, ce n'est pas que le musée des Beaux-Arts. C'est aussi le musée archéologique, et je conseille à vos auditeurs, auditrices, d'aller voir l'exposition Rotonde qui va être prolongée jusqu'au début du mois de novembre sur la Rotonde de Saint-Bénigne. C'est formidable. Et ces musées, pour qu'ils soient accessibles, bien évidemment, ils sont gratuits. C'est peut-être là que vous vouliez m'amener
notamment
dans votre questionnement. Mais ça ne suffit pas. Ouvrir les portes et dire « nous sommes beaux et nous avons des trésors à vous offrir » ne suffit pas. Il faut aller au devant des habitants, des habitantes, dans des structures qui ne sont pas forcément des structures dédié à la culture. Il faut aller être en capacité de se déplacer sur le territoire pour amener les personnes à nous. Il faut être aussi en capacité de travailler en matière d'éducation artistique et culturelle et de médiation. Et ça, les équipes des musées le font extrêmement bien en travaillant notamment avec les écoles, les collèges et en montant des actions. Tout dernièrement, par exemple, au musée de la vie bourguignonne, lorsque nous avons procédé, et ça faisait des années que ça n'avait pas eu lieu, je pense que ça faisait plus de 30 ans que ça n'avait pas eu lieu. Nous avons installé une nouvelle devanture de commerce dans la rue des commerces du musée de la vie bourguignonne. Nous avons travaillé en même temps avec une classe du collège Bachelard qui a produit ses propres faïences, puisque la boutique Cretin était une boutique de faïence bien connue des Dijonnais. Et à l'occasion de ce remontage de devanture, on a fait travailler et on a travaillé avec des artistes et des enfants. Tout ça, ça fait que les choses deviennent accessibles par la pratique artistique, par la rencontre d'artistes et par des ateliers de médiation et de pratique artistique proposés par les établissements.
Alors pour développer tout ça, aller hors les murs, comme vous le dites, aller vers les gens, enfin lutter contre l'autocensure sociale aussi, qui est un phénomène très très fort, dans, pas que dans ce domaine-là, mais dans le domaine de la culture, comment vous faites et combien ça coûte? Parce que tout ça a un prix.
La culture n'a pas de prix, mais elle a un coût. On
N'est-ce
peut
pas
jouer sur les mots de cette manière-là. Comment on fait? Bien sûr, j'aime beaucoup l'expression que vous venez d'employer, je me permets de vous le dire, autocensure sociale, autocensure spatiale. Tout ça, ce sont des freins extrêmement difficiles à combattre aujourd'hui. Les bibliothèques de la ville de Dijon sont gratuites, les musées sont gratuits. Les propositions que nous portons en direct de manifestations, je pense aux Nuits d'Orient et d'ailleurs, je peux penser à Grésy en fête, jour de fête, culture mix, etc., sont des propositions qui sont gratuites. On est très incitant auprès de nos partenaires culturels pour que... Et il y a des formes qui soient ouvertes et gratuites. On a le dispositif de la carte culture aussi qui va permettre aux étudiants de se rendre au spectacle à des coûts vraiment très, très abordables. Mais comment on fait? On met des moyens. Et aujourd'hui, le budget de la culture, dans sa globalité, c'est à peu près 40 millions d'euros à Dijon. Alors, il y a des moments où vous avez... des poussées très fortes quand vous faites la rénovation complète du musée des Beaux-Arts. Et puis, il y a d'autres moments d'accalmie, pour budgétaire en tout cas, mais vous avez en moyenne 40 millions d'euros de budget pour la culture dans notre ville, ce qui place ce sujet vraiment au cœur des préoccupations du précédent maire et de la nouvelle maire, Madame Kunders. Nous sommes une ville qui pense que la culture est un levier d'émancipation, de cohésion, et nécessaire et essentiel à ce que nous vivions certainement plus en harmonie.
Donc ça représente, je crois, pas loin du quart, c'est ça? Je
me oui, c'est ça. Budget de la non, vie. Vous ne vous trompez pas, monsieur.
D'accord. Voilà. Ce qui est quand même conséquent, et
oui,
pas forcément comme ça dans toutes les villes.
Non, pas forcément comme ça dans toutes les collectivités. Et à l'heure actuelle, nous tenons, si je me permets de dire ce mot particulier, c'est parce que vous l'avez toutes et tous vu, lu dans la presse cet été. Le monde culturel, il se dit en danger, mais je le crois sincèrement, chahuté, parce que la variable d'ajustement des politiques, bien souvent, c'est la culture. Et on ne va pas hésiter à les tailler tranchées. Vous avez vu des collectivités qui réduisaient à zéro leurs subventions et leurs aides au monde culturel. Vous vous doutez bien que pour le moment, tout ça tangue et chahut. Et à Dijon, on fait le choix de tenir et de maintenir ces budgets, quel que soit ce qui va s'imposer à nous en matière de restrictions budgétaires ou de difficultés budgétaires.
Bon,
c'est un choix politique.
Ce qui sous-entend, parce que ce n'est pas la question cet après-midi, mais que... la ville de Dijon a un budget équilibré et qu'elle est capable aussi de
bien
supporter
sûr.
Ça, parce qu'il y a des collectivités actuellement en grande difficulté.
Je suis d'accord avec vous, monsieur. Je suis d'accord.
Alors revenons à quelque chose que vous avez évoqué qui est important, c'est le lien que vous faites entre l'éducation artistique, notamment dans les écoles, et la cohésion sociale.
Oui.
Et le fait d'appartenir, de se sentir appartenir à la même ville.
Oui.
Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? Parce que ça revient souvent dans vos propos, dans vos
oui.
textes.
Pour ce qui me concerne, je pense que c'est la philosophie globale du projet qui est porté par la ville, la participation, la compréhension et le partage sont des vecteurs, pour moi, d'inclusion et de compréhension et de, comment dire, plus vous allez pratiquer, vous êtes au conservatoire, vous pratiquez un instrument, vous êtes danseur ou danseuse, ou vous êtes en classe d'art dramatique, cette pratique-là, qui est déjà une pratique importante puisque vous êtes en conservatoire, va vous donner envie d'aller voir ailleurs ce qui peut se passer dans d'autres disciplines, dans celles que vous pratiquez, aller à la rencontre d'artistes. Ça, c'est déjà pour des personnes dont les parents ont la conscience, peut-être à un moment donné, que la culture peut être un vecteur majeur d'épanouissement. À nous, collectivités, de créer le bagage, j'allais dire, le capital culturel, si je peux me permettre cette expression, de ceux qui n'en ont pas ou pour qui c'est plus complexe. À nous donc, à travers des actions d'éducation artistique en école, à travers des résidences d'artistes en école, à travers des moments construits avec les structures socio-éducatives ou avec d'autres groupes, à nous d'aller au plus près, à nous d'aller planter les petites graines qui feront que peut-être à un moment donné, une petite fille ou un petit garçon se sentiront autorisés à franchir les portes d'un conservatoire. Comment est-ce qu'on peut aussi aider les uns les unes les autres à franchir les portes d'un établissement d'apprentissage? C'est en étant au plus juste dans nos tarifications, je me permets aussi à cet endroit-là de parler de ce sujet parce qu'il est important, et en se disant que les facturations, elles vont être proportionnelles aux ressources des familles. C'est extrêmement important. Mais vous avez beau pratiquer ces tarifs qui peuvent être extrêmement bas, vous avez beau ouvrir la porte de vos établissements, si vous n'allez pas au plus près pour faire germer le désir, l'envie, la curiosité, ça ne fonctionnera pas. Et à cet endroit-là, l'enfance, l'école, sont des acteurs, c'est pas très joli,
majeurs. Des moments privilégiés.
Mais non. Oui, et des lieux privilégiés de cette émancipation culturelle et de cette création de capital culturel. Si à Dijon, à un moment donné, nous avons souhaité, maintenant il y a une dizaine d'années, ouvrir un lieu qui s'appelle la Minoterie, qui a été labellisé in fine par le ministère scène conventionnée d'intérêt national art enfance et jeunesse, c'est parce que nous estimions, avec son créateur Christian Duchange, qui était metteur en scène bien connu ici et ailleurs, puisqu'il a eu le premier Molière du jeune public en 2005, je crois, avec Christian Duchange, nous estimions qu'il fallait absolument porter l'éducation artistique et culturelle, la création, le contact avec les artistes dès le plus jeune âge, et que l'enfance, c'était le territoire qui allait permettre de briser peut-être cette ségrégation spatiale ou sociale ou ces freins que l'on peut se mettre à soi-même, d'ailleurs, quelle que soit notre condition, simplement parce qu'on se dit « ça ne nous parle pas, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas fait pour moi », quel que soit son quartier d'ailleurs ou son milieu socio-culturel.
Alors c'est vrai que vos propos, c'est important et renvoie à quelque chose, un événement un peu, moi je pense, tragique sur le fond. C'est le fait qu'une bibliothèque ait été attaquée et brûlée à Dijon. C'est symptomatique. Il y a un très beau poème de Victor Hugo, d'ailleurs, que j'ai en tête, qui discute avec un jeune délinquant de l'époque, qui ne comprend pas du tout ce que lui dit son interlocuteur. Et à la fin, il lui dit « je ne sais pas lire ». Dans tous les cas, j'ai vu que la ville avait réagi avec beaucoup de ténacité. Et beaucoup d'énergie autour de cette affaire-là.
Oui, Madame la maire a été profondément affectée, choquée, et puis aussi nous sommes dans l'incompréhension totale. Les équipes avaient déjà subi le premier incendie, et nous-mêmes, le premier incendie de la médiathèque Champollion à l'étage jeunesse, au rez-de-chaussée. Les équipes se battent, mettent tout en œuvre pour réouvrir. La bibliothèque est rouverte une journée et elle brûle de nouveau le dimanche et de façon beaucoup plus conséquente. Bien sûr, on a du mal à comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Ma réflexion, pardonnez-moi, c'est encore vif pour moi. C'est quelque chose de complètement incompréhensible, comme ça peut l'être pour nombre de vos auditeurs, auditrices, pour vous-même. Mais je ne sais pas si c'est une bibliothèque qu'on attaque, si c'est le savoir que l'on attaque, si c'est quelque part la République.
C'est pas improbable qu'il y ait tout ça.
Peut-être.
En tout cas, vous, votre démarche...
Est-ce que c'est, pardonnez-moi,
je vous en prie,
bêtement, crûment, salement, lié à des histoires de drogue sur le territoire, des histoires de territoire, justement. Voilà. Ma religion à cet endroit-là, toute laïque qu'elle soit, n'est pas faite.
Oui, puis c'est des endroits qui ne sont pas forcément très protégés par ailleurs. Ce ne sont pas des endroits à risque.
Moi, ce que je trouve fou, c'est que cette bibliothèque Champollion, elle a été voulue comme étant un établissement majeur dans un quartier politique de la ville, ou dans le quartier des Grésilles, un quartier populaire. Et c'était l'établissement de proximité par excellence où les familles, les enfants, tout le monde se croisait dans un lieu paisible où on pouvait tout à la fois et ne rien faire, et lire, ou jouer, ou Et je me dis, mais ce sont les familles qui en pâtissent. Ce sont les voisins, voisines, les enfants de l'école, de la crèche qui pâtissent de cet état de fait. Mais nous ne lâchons pas. Madame la maire a souhaité qu'un point de lecture temporaire soit ouvert et il fonctionne. Et les équipes sont heureuses de le tenir. Et nous allons reconstruire.
Nous sommes donc avec Madame Martin, adjointe à la culture de la ville de Dijon. Nous n'allons pas rester sur ce constat difficile et douloureux, même si nous avons évoqué plusieurs explications qui peuvent se recouper.
Oui.
Tout n'est pas instrumentalisé et manipulé, mais il y a des forces parfois profondes qui n'ont pas envie de la cohésion, qui n'ont pas envie de l'identité collective, encore moins dans l'espace public. Dans tous les cas, revenons sur le fond de notre entretien, qui est un énorme travail qui est fait de diffusion culturelle et développement de la culture auprès de la population. Alors, je voulais évoquer le jazz avant de conclure, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Il se trouve que Shalom Bourgogne, depuis toujours, a une petite particularité. C'est une émission qui passe beaucoup de jazz.
D'accord.
Qui est très éclectique. D'ailleurs, on sait que nos programmes sont beaucoup appréciés, mais on tient et on est content parce qu'on vient de recruter une personne en service civique qui va nous aider à reconstruire, à développer en tout cas cet aspect-là. Savoir un petit peu le jazz à Dijon, qu'est-ce que ça représente pour vous.
Ah, le jazz à Dijon, qu'est-ce que ça représente pour moi.
Nous en profitons.
Alors, profitez-en.
Parce que c'est un peu notre marque, de notre marque.
Alors, si vous me dites le jazz pour vous, c'est quoi ? Je vais vous répondre une petite anecdote. Le jazz pour moi à Dijon, c'est un concert de Miles Davis dans peut-être au Palais des Congrès ou au Parc des Sports. Parc des Sports, merci de la confirmation. J'ai des personnes autour de moi qui me font des signes pour me dire que ça doit être ça. Et à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de lieu. Hein. Aujourd'hui, on ne donnerait pas un concert de Miles Davis à cet endroit-là.
C'est clair.
On est d'accord avec ça. Et depuis, il y a des salles qui sont beaucoup plus adaptées. Le jazz à Dijon, c'est les associations. Et il y en a qui portent, comme Jacques Paris, je pense à lui, Média Musique, qui porte Jazz au Jardin, Jazz en Ville, Jazz à la Plage. C'est l'association Point Break qui porte d'autres expériences à d'autres endroits du jazz. Le jazz à Dijon, c'est une musique vivante, c'est le conservatoire, c'est les musiciens qu'on peut croiser, c'est la fête de la musique. Le jazz à Dijon, c'est tout ça. Le jazz à Dijon, c'est les soirées cabaret à la vapeur, c'est Vaporetto, c'est des bœufs. Je me souviens aussi, parce que j'ai l'âge de me souvenir de cela, du bœuf à Aristote, un amphi de l'université pour ceux qui ne connaissent pas la faculté dijonnaise, l'université de Bourgogne-Europe. Et donc, c'est tout ça, le jazz à Dijon, c'est la fête. Et c'est des gens qui se croisent et qui improvisent. Et ça a quelque chose à voir avec, en tout cas dans mon esprit, avec l'art contemporain, la liberté, la culture, la littérature. Mais le jazz, c'est comme toutes les formes de musique, c'est une forme de liberté. La création musicale, elle est là, elle est... Dans les musiques électroniques, dans les musiques rock. Et puis tout ça, ça donne un monde qui swing et qui ne se contente pas de se regarder en chien de faïence, pardonnez-moi l'expression, ou de se détester. Ça donne un monde de cohésion, de partage, de couleurs, de rythme, et c'est ce qu'on aime.
Nous sommes, Madame Martin, adjointe à la culture, donc la ville de Dijon, dans un moment difficile dans nos pays, un moment où on a la guerre dans notre continent européen, dans un moment d'inquiétude pour les jeunes, dans un moment où il y a énormément de belles choses, notamment dans la création, dans la science, etc. En tout cas, pour la ville de Dijon, comment vous pourriez nous transmettre l'essentiel de votre politique culturelle et de votre passion pour cette politique ?
Mon Dieu, mais vous me demandez des choses extraordinaires. Je ne suis pas une artiste, je suis une élue à la culture, dans une ville engagée pour la culture, et ça, c'est une position absolument enviable. Vous savez, tout à l'heure, parlons espoir. Tout à l'heure, on a parlé de la médiathèque Champollion qui brûle. La médiathèque Champollion qui brûle va être l'occasion de reconstruire une médiathèque encore plus formidable, encore plus partagée et participative. Parlons d'un autre projet. À Dijon, nous sommes une ville de patrimoine. Nous avons débuté notre entretien de cette manière-là. Aujourd'hui, un très, très beau projet au centre-ville. Une église, l'église Saint-Étienne, qui va devenir dans son ensemble une grande bibliothèque adulte et jeunesse de centre-ville, la bibliothèque Colette. Soyons heureux de ça. À chaque fois qu'un obstacle se dresse, il y a une solution, il y a une création, il y a quelque chose à inventer, à partager. Le monde culturel, la vie culturelle, l'art, la culture dans toutes ses dépendances, si je peux me permettre ce clin d'œil, toutes les formes d'art permettent de soigner l'esprit, le cœur et l'âme. Je suis persuadée, mais je suis sans doute naïve, que la culture sauvera le monde. En tout cas, c'est un moyen de s'élever, de partager, de discuter, de partager des émotions alors même qu'on ne partage pas la même langue et de construire un monde qui soit plus fraternel, plus ouvert et en tout cas très certainement plus paisible. Ce n'est pas un hasard si dans les dictatures, dans les pays de régimes autoritaires, totalitaires, les premières choses que l'on va essayer d'attaquer, ce sont justement les éléments de culture, d'information et de connaissance. On brûle des bibliothèques, on brûle des livres, on massacre des statues, on tue des journalistes ou que sais-je, qu'importe. C'est, tout ça, ça veut dire qu'on est, comment dire, dans une lutte contre la connaissance, contre l'ouverture, contre le partage, contre la démocratie et contre la fraternité. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mesdames et messieurs, que je suis convaincue que plus nous partagerons art et culture, plus nous vivrons des moments d'émotion ensemble, plus nous nous réjouirons de partager la musique, de partager la peinture, la sculpture, le théâtre, plus nous serons heureux, plus nous nous sentirons frères et sœurs.
Madame Martin, je vous remercie. Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, nous étions avec Madame Martin, jointe à la culture de la ville de Dijon. À très bientôt dans Ma ville, ma région.
Merci à vous.
Entrevue. Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.